tout mais à l'heure.
Julien, ça ne le connaît pas.
C'est le moment original avec Leïla Kadouchoukali, Morgane, Agnès, Jérémy.
Bonsoir.
T'as dit bonsoir.
Bonjour.
Ok, tout ça parce qu'il y a Elie Abergel qui a une voix de dingue, c'est ça. Ok, Jérémy.
Oui,
Tanguy Bachiro, Daniel Morin. Et nos invités Yamina Bendigui et Afsia Hersi. Dans cette bande originale avec un film touchant, bouleversant, parce qu'il raconte l'histoire d'une famille, mais aussi l'histoire d'une société, et puis l'histoire de regard sur les femmes, sur leur place, sur leur liberté d'expression. Ça s'appelle Sœur, c'est le nouveau film de Yamina Benguigui. Il y a quand même beaucoup d'années qui passent entre deux films de Yamina.
Oui, on va en
parler avec elle, et un casting de folie, dont Afsia Hersi, la douce et talentueuse Afsia, qui en plus de jouer dans son film, réalise également le sien. On va en parler dans quelques instants. Mais alors, pour ce blind test, que faire ?
Ah, je la connais par cœur.
Attends.
Daniel ?
Attends, mais c'est quoi le thème ?
Pardon ?
Manu Chao ? Non, 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 pas du tout.
Morgane ? Émilie Boiseau ?
Non, 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 non. C'est une femme, je la connais.
Ben alors ?
C'est l'enfer.
Donne-moi
toujours sincère.
C'est Sanson. Véronique Sanson.
Joli.
Enfin, Jérémy Véronique Sanson.
Avec Grand Corps
Malade.
Avec Grand Corps Malade.
Une sœur. Et donc le thème, c'est quoi ?
C'est sœur.
D'accord.
Avec elle, on a déterré
avec
des coquillages.
Avec elle, on a déterré des coquillages.
Mais tais-toi.
On est issus des mêmes paysages. Il y a des liens indéfinissables. Entre élégance, intelligence, elle sait même être forte en douceur. Plus qu'un repère, sans avoir l'air. Plus qu'un frère. Une sœur.
Sans avoir l'air. Attention, qui chante ?
Morgane.
Oui. Oui. Attends.
Tu as vu l'attitude qu'elle a ?
Tu ne me parles plus jamais comme ça.
Mépris de classe, là.
Mais c'est dingue, le mépris.
Non, c'est la veste en lin.
Non, le mépris. Alors, chers auditeurs, elle a à peine levé la main pour dire Morgane. Et puis, elle n'a pas levé la tête quand j'ai dit oui. Elle a fait Clara Luciani. Elle m'a même pas regardé.
Pardon, j'étais en train d'écrire.
Et elle a fait le geste drop the mic, genre, tu sais quoi ?
Elle revient à son papier, tranquille.
Ouais.
Dimension parallèle. Ça se termine cette année.
T'as senti comme le mépris ou quoi ?
Ah ouais, totalement.
C'est de la timidité mal placée.
Allez, on joue !
Ouais, c'est ce qu'on dit dans le mépris, généralement. Attention ! Qui chante ?
Jérémy.
C'est Jérémy.
J'ai entendu Leïla.
C'est Morgane. Ah, c'est Jérémy.
C'est parce qu'il a la voix grave, mais c'était Leïla.
Merci, mon appart.
Je donne à Leïla.
Non.
On gagne dans notre cœur.
Leïla était plus forte avec sa voix, mais Jérémy avait
signé. Non, pas plus forte, si. Une voix plus forte que Jérémy, ça m'étonne.
C'est grave.
C'est plus Nazia.
Ah oui, d'accord.
Jérémy essaye d'avoir la voix d'Elie Abergel, donc il fait.
Jérémy.
Mais ça fait pas du tout la même chose.
Bah oui, mais
c'est parce qu'on le voit.
Un message à passer à Elie, Agnès ou pas ?
Non, je sais pas à quoi il ressemble.
Voilà, alors que Jérémy, on le voit.
Alors je pensais que c'est la beauté intérieure.
Je crois que la beauté intérieure, ouais, c'était ton moteur.
Moi, ça, c'est un concept.
Daniel ?
Oui.
Sister Sisters ?
Non.
Ah, c'est Brothers alors. C'est les autres.
Sisters, c'est Fanny Ruet, normalement.
Ouais.
C'est sympa.
J'allais dire ciseaux.
C'est frère en tout cas. Daniel,
oui.
Louis Chédid.
Oui.
Ah, okay.
Louis Chédid.
Ok.
Si je te disais ce que j'entends.
Je connais pas ça. Tu connais pas ?
Non.
La beauté intérieure.
Pour l'instant, 2 points pour Jérémy Crédville, 1 pour Daniel, 1 pour Morgane.
0.
Morgane,
c'est l'âme. Ah oui, petite sœur.
Ta douleur.
C'est l'âme.
Il en reste combien là, parce que...
De l'âme.
Avant l'émission.
Plus grand chose.
J'irai ta sœur.
Un entretien.
Yeah, yeah. Pour toutes les sœurs.
À l'ombre. D'ailleurs,
si c'était moi.
Qui a une sœur ? T'as une sœur, Morgane ?
Oui.
Grande ou petite ?
Non, elle a 18 ans. Elle est
grande,
grande,
18 ans d'écart ou elle a 18 ans aujourd'hui ?
Elle a 18 ans, 13 ans d'écart.
Agnès ?
J'ai une grande sœur.
C'est vrai ?
Ouais.
Qui a beaucoup d'écart aussi ?
7 ou 8 ans d'écart avec moi.
Tu ne sais pas.
On va se rencontrer l'an prochain.
Le problème, c'est que
moi, j'ai une petite sœur, Agnès.
C'est ça.
J'ai une petite sœur.
Daniel, une sœur.
Ouais, et Morgane.
Mais elle nie.
Pardon ?
Elle le nie. Elle dit que c'est faux.
Anne le nie.
Jérémy, t'as une sœur ou pas ?
Oui, une petite sœur. Amandine aussi.
Oh, ah, c'est la même. C'est trop mignon.
Vous êtes en garde partagée aussi pour
Tanguy, t'as une sœur ?
Non, non, un frère plus jeune.
T'as une famille quand même ?
Oui.
Ah, d'accord.
Et toi, c'est vrai que Tanguy,
non, j'ai un
frère.
J'ai un grand frère qui m'a donc frappé pendant toute mon enfance.
C'est de là que ça vient cette envie de remonter le monde.
Tu sais, non, mais vous avez vécu ça. C'est-à-dire, on est dans la même chambre, donc c'est lui qui décidait de. On éclaire, on éteint, on écoute telle ou telle musique. Alors c'est l'avantage, c'est que ça m'a fait découvrir Springsteen, les Creedence.
Mais sinon, il fallait déposer une main courante. Hein.
Et à l'époque,
ça se faisait pas.
Moi, je te parle de ça dans mon enfance, dans les années 40.
Oui, voilà.
C'est pas possible. question qui chante ?
C'est une basse.
Claire Diterzy.
C'est très joli.
Ça ressemble.
Ah.
Ça sent le chanteur apaisé.
C'est Jérémy, c'est Lavillier.
Non.
Ah non, c'est pas
Vanessa Paradis. Vanessa Paradis.
Moi j'avais dit Léa avant.
La Villiers, c'est pareil. Mais je fais cette chanson.
Elle s'appelle Vague à l'âme, sœur. Vanessa Paradis, alors attention.
C'était le grand.
Non.
Non, c'est
le
maman.
Le grand banco.
Agnès a un point, Daniel a un point, Jérémy 2, Morgane 2. Tout se joue maintenant. Il y a forcément sœur dans le titre. Mais qui est l'interprète ? Clin d'œil évidemment au film de Yamina Benguigui, sœur. Isabelle Adjani, Rachida Brakni, Maïwenn et Afzia Herzi.
Corneille ?
Ah ouais.
Horrible. Naïla Corneille ?
Ouais.
L'arrangement,
je cherchais justement.
L'arrangement. Mais vraiment.
Victoire !
Mais oui !
Merci d'accueillir Afzia Herzi et Yamina Benguigui.
La bande originale avec Nagui.
Et avec sœur, bienvenue. Afzia, tout va bien ?
Tout va bien, merci.
Bon, vous êtes une habituée du spot. Yamina, c'est la première fois ?
Oui, c'est la première
fois. Mais c'est un truc de dingue ?
Oui.
C'est ce que je me disais arrivant.
On se connaît tellement, on s'aime tellement. J'ai dit, mais comment ça se fait que pendant 7 ans, vous n'avez pas voulu ?
Elle a fait d'autres choses.
Du racisme basique, oui, ça. Oui, non, je ne vais pas chez lui. Ok, d'accord.
Mais non, mais je me suis dit, oh, il m'aime plus.
C'est ça. Bien.
Je renverse.
C'est votre deuxième long métrage. Tout à l'heure, je disais que vous preniez le temps avant d'écrire et de réaliser des films. Celui-ci a été particulièrement long, touchant, délicat à écrire et à tourner.
Oui, alors entre les deux films, c'est vrai que j'ai fait d'autres films qui sont des documentaires et des séries.
Ah non, mais celui-là,
non. Je veux dire, pour moi, l'image, peu importe le format, mais là, c'est une histoire personnelle. C'est vrai, c'est à, on va dire, il y a 30% d'autobiographie, difficile. Voilà, c'est le rapt d'enfant qui a fait partie de ma vie. Et puis
le rapt d'enfant, on va préciser pour ceux qui n'ont pas le pitch en tête, c'est un papa qui garde de force, entre guillemets, un petit garçon à rester avec lui pendant que la mère protège ses filles en partant d'Algérie.
Oui, c'est-à-dire qu'entre la France et l'Algérie, il y a deux législations. Si la mère en France a la garde des enfants, donc le père a le droit aussi de les avoir en vacances et de les emmener en Algérie.
Mais le premier droit est celui de la mère en France, ce qui n'est pas le cas en Algérie.
Il n'est pas reconnu de l'autre côté, puisque c'est le droit du père. Donc,
Cette scène d'ailleurs, où avec, je ne sais pas, c'est un juge, je ne sais pas comment ça s'appelle, cette scène est d'une violence inouïe, parce qu'on lit et on sent le désespoir, en l'occurrence chez les femmes d'un côté, chez les mères, chez les sœurs d'un côté, et cette espèce de rigidité de la loi est très très machiste, en disant non mais c'est comme ça, c'est la loi algérienne, et la manière dont il parle, la manière dont il regarde même les autres, on voit le mépris, on voit la supériorité masculine.
C'est-à-dire aussi qu'ils appliquent la loi. Ils appliquent la loi avec... Alors, ils n'ont que des femmes, puisque ce sont que des femmes qui viennent chercher leurs enfants, puisque aucun homme ne viendra devant ce tribunal.
Puisque lui n'a rien à demander.
Des centaines de femmes, et c'est d'une violence inouïe, puisque ça se passe comme ça, en très peu de temps.
Et j'allais dire à quoi ça sert que ça se passe d'ailleurs. Que peut dire ce juge d'autre que non.
C'est la loi du père.
Et ouais. C'est comme ça.
Voilà. C'est comme ça, mais vous devez repasser. Donc, ce sont des raptes légaux. Mais je pense que les deux législations sont à remettre sur la table parce que sans ingérence, encore une fois. Mais enlever les enfants et les faire disparaître. Si on peut déjà éviter de les faire disparaître, qu'il y ait interdiction de faire, parce que ça continue, c'est propre à d'autres pays, mais voilà, j'avais envie de...
Mais c'est ce qu'il y a de plus atroce en plus, enfin, pour le sentiment d'avoir ton enfant qui s'en va, tu ne peux plus rien faire du tout, ça doit être
sentiment d'impuissance et d'injustice.
Et le vide qui s'ouvre.
Et tout ça en toile de fond avec une histoire de femme, et je dis femme volontairement, parce que c'est, oui, il y a des sœurs, mais il y a aussi la mère, et il y a aussi la liberté, la fille et la petite fille, et la liberté des femmes, et la liberté d'expression aussi en Algérie, avec des manifestations, enfin tout ça donc est très... C'est la sororité plus que sœur qui est le sujet, parce que vous...
C'est un thriller familial.
Exactement, et vous, Afzia Herzi, vous êtes à la fois, ce qui est trop chic, la fille d'Isabelle Adjani, et sa mère.
Voilà.
Jeune. Puisque vous jouez dans les flashbacks le rôle de la maman.
Et sur scène aussi, Isabelle Adjani incarne une dramaturge qui met en scène cette histoire familiale.
Oui, c'est ça, c'est « A-t-on le droit ?» d'ouvrir la boîte de Pandore en se racontant. Ce film parle aussi de ça. À quel moment dans notre vie on a le droit de dire, puisque chez nous, entre guillemets, dans notre histoire collective, dire c'est trahir.
En tout cas, c'est plus une boîte à secrets qu'une boîte de tous les maux de la planète et de tous les péchés possibles.
Oui, mais elle
décide de mettre... Enfin, nous ne sommes pas issus de la culture du divan, c'est-à-dire aller dire bon, chez ma mère, mon père, je veux le tuer. Enfin, bon, nous, on en est à déterrer les personnes, leur redonner de la dignité. Mais quand il y a eu violence, quand il y a eu dans nos histoires un héritage violent dû à la guerre et tout son éclatement, voilà.
On sent, Afzia, le poids, entre guillemets, psychanalytique, puisque l'image a été évoquée de ce film dans la vie de Yamina Benguéhi, quand on se retrouve sur un plateau à tourner une histoire qui est si sensible pour son auteur et sa réalisatrice, c'est une pression supplémentaire que simplement de jouer.
Ah oui, c'est une pression, on va dire, positive, et un honneur aussi, et un devoir. Des personnages qui existent, qui ont existé, et quand elle me l'a proposé, j'ai immédiatement accepté, j'étais touchée par le propos et ça a été une évidence.
On est d'accord, mais cette pression de ne pas décevoir, justement, de ne pas de jouer un membre de sa famille et d'interpréter des situations qu'elle a déjà tellement en tête, et bien plus que dans son imagination. Mais
D'ailleurs, c'est une scène du film entre Isabelle Adjani et celui qui incarne son père sur scène, lui dire comment tu peux faire pour me demander d'incarner cet homme-là. Tout d'un coup, c'est difficile.
Oui, dans la scène dans le café, où la question se pose de savoir comment à quel moment Isabelle, c'est Adjani, donc Zora dans le film, elle est proche de tomber aussi, elle est très très fragile parce que demander à son acteur dont on comprend qu'ils sont amoureux de jouer son père et lui doit incarner cette violence vis-à-vis d'elle, c'est tout le rôle du théâtre. Et puis aussi quand la personne lui dit, la directrice de la communication qui lui dit, moi je pense que c'est confus entre le père, ta fille qui joue.
Faut être plus clair,
c'est-à-dire alors que elle est en train de créer. Mais c'est un peu comme moi ce que j'ai fait au tout début du projet.
C'est une mise en abîme, ouais, c'est ça.
C'est une mise en abîme au tout début du projet. Je tenais à ce que toutes les actrices et les acteurs soient d'origine algérienne, franco-algérienne. J'avais l'impression que c'était capital pour Pardon.
Mais je vous en prie. Oh là là. Mais vous n'êtes pas non plus obligé de répondre, Yamina. Non, mais laissez sonner, on sent. Mais c'est pas grave.
C'est pas grave. Non,
hein. Laissez sonner.
C'est José.
C'est pas très bien. So chic.
Non, mais c'est dans.
Vous êtes sûr que vous voulez pas répondre? Donc vous vouliez qu'il y ait dans leur ADN justement cette histoire de l'Algérie.
Oui, pour qu'il y ait cette sororité et que on puisse immédiatement installer un terreau et que là où j'allais raconter, elles allaient puiser chacune dans quelque histoire. Chose.
Mmh. On va continuer à en parler jusqu'à midi et demi de ce film Sœur. On va parler aussi de Bonne Mère parce que on a là aussi apprécié et je me suis pris une gifle avec ce film aussi parce qu'on est totalement là aussi dans la famille et c'est peut-être l'air du temps aussi de revenir à nos racines, de ne pas oublier qui nous sommes, d'où l'on vient, comment on a grandi et de rendre hommage.
C'est Mère Courage et cette comédienne puisque c'est un peu la différence avec votre film, Yamina, pour votre film, on a une liste d'actrices, c'est impressionnant vraiment de les réunir tout à l'écran.
Ah bah oui.
Et Avzia, le choix, c'est de prendre des gens qui n'ont jamais joué et cette femme qui incarne cette bonne mère est absolument exceptionnelle. C'est
Halima Benhamed.
Oui. Elle est incroyable.
On va en parler dans quelques instants. Nous avons pris le choix, nous, de prendre des gens qui n'ont jamais fait de radio aujourd'hui pour faire cette chose originale. Et on va commencer par Morgane Cadignan qui ne vous aime pas.
Quelle idée!
Eh ouais, comment ne pas aimer Yamina, comment ne pas aimer Avzia?
Yamina, Avzia, je vous aime pas. Ceci n'est pas une citation empruntée à Éric Zemmour, mais c'est bien moi qui prononce cette phrase pour l'avant-dernière fois de l'année. Je n'en peux plus de ne pas aimer les gens. Moi, je suis usée par la haine, messieurs, dames. À partir de demain soir et pour deux mois, je vais aimer tous ceux qui vont se présenter devant moi. Vraiment, je vais aimer, je vais adorer chaque individu. Bon, après, je peux quand même pas me retenir de pas aimer certaines catégories de population. Par exemple, les gens qui parlent de leur enfant en disant la puce. Et comment elle va ta puce? Astuce, c'est rigolo, remplacez dans votre tête le C par un T et vous verrez intérieurement, mais c'est très drôle. Ah si, c'est génial. Alors ça y est, c'est lui votre petite pute? Tout de suite, ça a beaucoup plus d'épaisseur. Ah, et j'aime pas les gens qui portent des pantalons cargo alors qu'ils bossent pas sur des cargos. Cherchez votre sens du style, il doit être au fond d'une de vos nombreuses putains de poches. J'aime pas non plus les gens qui hurlent « Allez là !» dans les soirées. J'aime pas qu'on me dise de pas crier « Allez là !» dans une soirée. J'aime pas le mois de juillet quand il ressemble à un mois de mars. Puis j'aime pas tellement les mars non plus. Je préfère les sneakers et j'aime pas manger des sneakers devant des gens parce qu'ils me répondent oh, « Si tu savais la merde qu'il y a là-dedans. » Là, j'en fais une, mais j'aime pas les longues phrases non plus. Mais j'aime quand même bien Nagui, c'est paradoxal. Même si souvent, la personne qui juge le sneaker, c'est lui. Allez là! J'aime pas les gens qui parlent en citation de la cité de la peur. Ça fait 23 ans. Remettez-vous là, ça y est. Ça va bien 5 minutes, les gens qui te tendent un chewing-gum en disant « Prenez un chewing-gum, Émile. » Je crois qu'on a compris. Oh là là, puis avec Nagui derrière qui te décompte l'aspartame dans le chewing-gum, mais laissez-moi, quoi. Mais vous savez quoi? Assez de haine, place à l'amour. C'est l'avant-dernière émission de la saison. Donc à partir de maintenant et jusqu'à demain 12h30, je vais essayer d'être de plus en plus douce. Et je suis obligée de toute façon face à nos invités. Avzia, au vu de votre jeu et de votre talent pour la réalisation, vous méritez de l'amour. Au moins un amour, c'est vraiment le minimum. Yamina, vous êtes tantôt réalisatrice, tantôt ministre, tantôt adjointe à la mairie de Paris, tantôt présentatrice. Ça change beaucoup. La seule vraie constante, c'est la qualité de votre travail et la réalité de votre engagement. Et c'est ce qu'on retrouve dans Sœurs, cette histoire de trois sœurs donc qui tentent de retrouver leur frère enlevé il y a longtemps. Ça, c'est vraiment possible quand tu as une relation assez mûre avec tes sœurs, de faire ce voyage. Avec la mienne, ça fait 30 ans et on est encore au stade de... pourquoi elle a eu deux Maltésers de plus que moi? Elle en a 15 et j'en ai 10. Donc déjà... Personne n'aura le Nobel d'astrophysique ni de mathématiques dans cette famille. Et franchement, honnêtement, si notre frère disparaissait, ça ferait plus de Maltésers, quoi. Et puis pendant qu'on s'engueule, Nagui qui passe une tête dans le salon pour lire la composition du paquet de Maltésers. Non, vous n'habitez pas ici, monsieur, partez. C'était 3 nuits sur mon canapé, ça fait 9 ans. Ceci dit, ça ferait un beau film. Les sœurs Cadignan et Nagui. Il y a un petit côté nouvelle vague. Pas dégueulasse. Malheureusement, j'ai la flemme de réaliser. Je vais laisser ça aux gens qui savent le faire. Bonne émission.
Merci, Morgane. Et Morgane Cadignan l'a rappelé, c'est vrai que dans tout ce que vous faites, Yamina Benguigui, il y a l'engagement. Alors est-ce que l'engagement est de dire j'ai des combats, j'ai des valeurs et je veux les mettre au service de la communauté, de la ville, du pays ou de l'art, ou c'est aussi un côté militant avec je vais réussir à changer les choses?
Oui, ça c'est plutôt utopique, mais l'utopie est en moi. C'est vrai que je suis avant tout réalisatrice. C'est mon identité.
C'est votre définition.
C'est ma définition, d'accord. C'est mon identité. Si j'ai fait tout de suite de la politique avec mes films, c'est faire Mémoire d'immigré ou faire Femme d'islam ou faire Le plafond de verre, c'est réaliser, s'arrêter, faire 2 ans de débat en se disant on va essayer de faire bouger les préjugés, c'est l'engagement un peu de certains documentaristes. Là, moi, le cinéma est quelque chose qui est énorme pour moi, raconter des histoires, pouvoir ouvrir la parole avec mes films.
Raconter des histoires pour que justement...
Pour avancer.
Pour qu'on débatte, pour qu'on réfléchisse et pour qu'on en parle.
Pour qu'on en parle, parce qu'on a, une histoire particulière. Alors je peux la résumer à la France et l'Algérie, mais la France et le Maghreb, la France et son immigration. Sur ne pas raconter ces histoires, c'est ne pas exister, c'est être condamné dans l'invisibilité, c'est laisser les extrêmes...
C'est se tromper de vérité, surtout.
Et c'est se tromper d'histoire. C'est donc, c'est à nous de construire... dans le film, on voit bien qu'on est en train de... On s'arrime ailleurs, on s'éloigne du pays d'origine de nos parents... Mais il faudrait aussi que, par exemple, le mot « pays d'accueil », on change de mot aussi, parce qu'on n'est plus à nous accueillir.
Ça fait salle d'attente, oui.
Non, ouais. Voilà.
Mais votre envie d'écrire et de réaliser des films ou des documentaires est celle de poser des questions, d'apporter des réponses, ou de laisser chacune, chacun, trouver la suite à l'histoire que vous racontez. Ce qui est un peu le cas, d'ailleurs, de Sœur.
Oui.
Chacun peut imaginer la suite.
Absolument. C'est-à-dire que la fin, tout le monde...
Non,
on ne va rien dire. Non, mais chacun pourra imaginer. Les fictions, surtout. Les fictions, le documentaire a une autre place.
C'est un autre travail, en plus.
C'est un autre travail. Et puis, c'est une autre façon de poser la question des discriminations. Par exemple, vous avez un film, la fiction, on emmène un peu plus loin. C'est l'imaginaire. C'est la découverte de l'autre, et est-ce que l'autre va rentrer dans votre univers ? Comme nous, on rentre dans l'univers du cinéma, de ce qui a été ici, la nouvelle vague, etc. On a su regarder des films en étant totalement... moi, ça a changé ma vie. America d'Elia Kazan, ça a changé ma vie. Donc, je tente de faire du cinéma comme ça.
Pour changer ne serait-ce qu'une vie, quelque part.
De changer une vie, de donner envie. Ouais.
Ouais. Et est-ce que le cinéma, de ce point de vue-là, est plus efficace que la politique ? Vous avez exercé des fonctions au plus haut niveau. Vous avez été ministre de la francophonie au sein du gouvernement français. Vous avez aussi œuvré au rayonnement de la langue française et au lien entre les populations, bien entendu. C'est quoi le bilan, quelques années après ?
On va aussi passer des soirées à picoler, à s'amuser, à penser,
ça crée du lien.
Je suis déjà extrêmement fière d'avoir à Paris créé la première délégation de lutte contre les discriminations et des droits de l'homme. Ça n'existait pas avant. Donc ça, c'est quelque chose qui reste, c'est une trace. Il y a d'autres adjoints, donc j'arrive avec...
Être utile.
C'est être utile. Ouais. On m'appelle pour mon travail d'abord.
Mais ça, j'entends. Mais qu'est-ce que pour vous le bilan ? Qu'est-ce
et
que
pour
vous pensez
moi,
être le
alors,
plus
au-delà d'un
efficace,
bilan,
quel vecteur,
non,
finalement,
au-delà du bilan, l'action politique peut agir. Mm-hmm. Voilà. Là où un film peut dire. Le cinéma, je pourrais faire tout ce que j'aurais, mais l'action politique, on va pas la développer, ce que j'ai fait sur le...
Et pourtant,
d'amener
au cinéma,
le droit des femmes, dans la francophonie, etc.
Et pourtant, au cinéma, on dit action.
On dit action, absolument.
Mais c'est la politique qui, pour vous, peut être la plus efficace.
Non,
mais...
L'action politique a les moyens d'agir, c'est-à-dire on fait des lois, on donne les moyens,
c'est là où nous, on place nos espoirs aussi,
mais
en disant,
oui,
si on vote pour telle ou telle personne, ça peut être par défaut pour éviter d'autres personnes, mais si on vote pour quelqu'un, c'est dans l'espoir qu'il y ait quelque chose
qui évolue. Voilà.
Et en même temps, l'actualité est un peu désespérante avec le taux de participation.
Ah, je suis d'accord.
Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Pour en revenir à la sororité, justement, Avia Herzi, à l'importance de la famille, puisque c'est aussi le cœur de votre film, et c'est la situation dans laquelle vous vous retrouvez à jouer plusieurs degrés dans la famille que vous a proposé de jouer Yamina Benguigui, le titre « Sœur », c'est comme une espèce de convocation, c'est-à-dire que ces femmes finalement ont leur vie chacune de leur côté, et puis d'un coup d'un seul, on se rappelle qu'on est sœurs, et là on se retrouve, et même si on s'engueule, et même si on est prêt à se battre ou à se crêper le chignon pour prendre une image qui peut devenir réalité dans une scène, on reste sœurs, c'est-à-dire que c'est plus fort que tout.
À vie. Voilà, des liens du sang à vie, quoi qu'il se passe.
Et de l'importance de la famille, parce que c'est aussi ce prisme-là, que vous, avec Bonne Mère, que vous avez voulu évoquer. Alors c'est un hommage que vous rendez à ce rôle de maman, mais il y a aussi des rapports de frères, de sœurs, très présents dans
le film. Bien sûr, d'amitié, de solidarité. Et j'avais surtout envie de montrer, de faire un film sur l'amour maternel, et sur, on va dire, ces fantômes de la société. Ces gens dont on parle jamais au cinéma. Et c'est un hommage à toutes ces mamans qui sont seules, qui se battent pour survivre. Surtout dans...
Pour le moindre euro, en cumulant plusieurs boulots dans une journée. On va prendre le temps de parler plus longuement du film. Pour en revenir à Sœur, le rôle de la mère d'ailleurs, dans le film, c'est celle qui a sacrifié, qui s'est séparé, qui a divorcé. Et on lui reproche au début d'ailleurs du film, pourquoi t'as divorcé? Pourquoi on n'est plus avec notre frère? Et la réponse qui est cinglante, c'est pour vous, pour votre liberté. C'était le seul moyen de défendre la place des femmes de ces filles, et que ces filles deviennent libres et ne subissent pas ce qu'elles étaient censées subir.
Et c'est pas n'importe quelle mère en plus, c'est une activiste, c'est une femme hyper engagée qui a lutté pour obtenir cette liberté là, et donc mener ce premier combat sans mener le second, ça serait complètement improbable.
Ouais, c'est ça, inefficace.
Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que selon la position qu'on occupe dans une fratrie, on n'a pas le même regard sur nos parents, on n'a pas le même regard sur les actions, et c'est ce qui crée.
Et puis sur les hommes aussi, le regard sur les hommes, on sort pas le torse bombé de la salle de cinéma du film. On n'est pas au top, Yamina. Franchement.
Non, mais ce que dit Leïla est juste, c'est-à-dire que
j'aurais pu faire partie du casting.
On oublie la partie combattante pendant la guerre d'Algérie. Encore une fois, je dis toujours, quel que soit le côté, les femmes ont été.
Bien sûr.
Quel que soit, puisque si on voit, c'est une
comment
une
les
guerre.
Femmes comment les femmes participent, comment les femmes soutiennent,
comment elles deviennent le viol de guerre était là des deux côtés, de partout. Donc à un moment donné, on demande, merveilleusement bien joué par Avia. Et à ce moment-là, je veux dire, l'homme qui va faire de la prison, enfin il est cassé, cet homme. Il est cassé, c'est pas pour lui donner des circonstances atténuantes, mais il est cassé aussi par c'était quoi être en prison pendant la guerre d'Algérie à Loos, à Lille. On les relâche comme des animaux. Et ça aurait très bien pu être un GI américain qui rentre de la guerre du Vietnam.
Absolument.
Si on le ramène dans sa famille, qu'est-ce qu'il fait avec sa famille? Ça finissait par des meurtres. Donc, ce sont des hommes qui ne sont pas débranchés, ce sont des hommes qui ne passent pas par des cellules psychologiques. Ils ont uniquement le foyer et ils vont partir à l'attaque de ce foyer. Donc,
avec, il faut quand même le rappeler dans ce casting, Avia Herzi, Isabelle Adjani, Rachida Brakni, Maïwenn, c'est-à-dire un casting de dingue, un jeu de dingue. Je ne sais pas quelle est la part d'ailleurs d'improvisation et d'écriture, mais ça donne en tout cas des scènes de cinéma.
Tout est écrit.
C'est absolument.
Et dans le casting, mon chéri, mon amour de toujours, c'est Janice Bouziani qu'on avait découvert dans Tu mérites un amour, un film d'Avia.
Formidable.
Qui, à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, je trouve que c'est un comédien solaire incroyable et d'une tendresse folle. Voilà, je voulais dire ça pour
grand acteur.
Bah ouais.
Moi, ce que j'aime avec Janice et Avia, c'est l'espoir de cette nouvelle génération. C'est-à-dire, elle a des liens avec sa grand-mère, ce que nous n'avions jamais eu. On n'avait pas de grands-parents. Et c'est aujourd'hui, c'est en train de se construire. et son amie qu'elle ose imposer à sa mère comme ça, mais qui lui a des références qui sont complètement ailleurs.
Marlène Dietrich.
Sur l'ange bleu, Marlène Dietrich. Enfin, ben, voilà, c'était la petite note. Parce qu'on on rit un peu quand même.
Bah, oui, c'est vrai, faut le rappeler. Sœur, c'est au cinéma, c'est ciné Yamina Benguigui et sur France Inter. Et ben, c'est Agnès sur ça.
Mais pourquoi la saison s'arrête ?
Parce qu'on est fatigué.
Alors que l'été n'a pas commencé, pourquoi la saison s'arrête alors qu'on n'est que début juillet et que tout le monde le sait que personne ne partira en vacances avant le samedi 1er août ? Une location en Espagne qui départ le 1er juillet, ça n'a pas de sens. Et qu'est-ce qu'on va faire nous en juillet ? On va écouter des replays ? On va devoir partir en vacances dans nos familles ? On va devoir attendre que les gens rentrent de Cannes ? On va préparer la rentrée. Pourquoi la saison s'arrête ? Moi, j'étais bien ici. C'est devenu mon espace de sécurité, plus confort que bien des maisons. J'aime mettre 1h13 à venir le matin tellement c'est loin. J'aime que chaque semaine, depuis maintenant 3 ans, le monsieur du café du coin me demande où on en est du conflit israélo-palestinien. Parce qu'en fait, depuis le début, depuis août 2018, il pense que je suis journaliste politique. Et moi, je suis trop gênée à l'idée de le gêner, donc je n'ai jamais osé lui dire... Et donc je brode. Maintenant même, j'arrive chaque semaine de plus en plus en avance au café, après avoir écouté la matinale et lu les journaux, et je travaille mon petit sujet, et je lui raconte le conflit israélo-palestinien comme si je parlais à mon enfant pour l'endormir, et je lui dis que ça va aller, je lui dis qu'on est en train de trouver des super solutions pour que les gens s'aiment et arrêtent de se battre. Ça va aller, monsieur du café, ça va aller. Il est content, alors moi aussi. Et donc j'arrive à la porte, et là la dame des rayons X me prend pour Marina Rollman et depuis quelques mois maintenant pour Fanny Rué. Ça me va, c'est safe, y a pas de problème. Puis la dame de l'ascenseur me prend maintenant pour Jérémy Crédville, donc j'imite Johnny. Ça me va, c'est safe. Puis je monte et dans les couloirs, j'adore parce que je croise tout le temps des gens de la chaîne et ils sont tous au téléphone tout le temps, même dans l'ascenseur où ça ne capte pas. Et ils sont hyper busy et ils disent hyper fort des trucs genre « Ah bah écoute chérie, si son attaché de presse veut pas qu'il fasse la promo, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il vient pas dans l'émission demain, et bah c'est à cosy. » Et du coup, moi je tremble et je prends mon tel et je fais tout pareil pour de faux. Et je dis « Ah bah écoute Jacqueline, si sa team veut pas qu'elle fasse la bande originale en exclu, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Nous on veut l'exclu et c'est tout. Donc tant pis, elle ira faire quotidien. Et puis nous on va inviter un roman et basta pépino. Et après j'arrive ici dans le bureau et j'aime bien parce que toutes les semaines depuis 3 ans, JB, le rédac chef, relit mon papier 20 minutes avant l'antenne et toutes les semaines il me dit c'est pas mal. Mais tu veux pas rajouter une blague sur les juifs ou sur les doigts dans le cul ? Oh bah non JB, c'est hyper gentil de ta part, mais là je pense que vu que je vais parler de la rentrée à la crèche de mon fils, c'est pas utile. Puis c'est quand même Isabelle Huppert ce matin qui vient nous parler d'Ostermayer, donc peut-être essayer de conserver un peu de dignité. Non mais même pas une blague sur les baskets de Nagui ? Bah non, lâche-moi le bras, merci. Et puis on arrive en studio, il y a le micro, il y a le direct, il y a des boutons partout. C'était pas facile au début. Moi j'ai mis 1 an à comprendre qu'il fallait mettre le casque, même si t'es moche en replay du coup. J'ai eu la peau finalement des gens du public qui attendent la mort.
C'est vrai.
Ou Tanguy Pasturo, on ne saura jamais. J'ai mis 32 chroniques à faire rire Leïla.
Non.
Et puis finalement, en mars 2019, j'ai fait une blague sur les fleurs de Bach et le fait que je pleurais en avion et elle a ri. Et maintenant, elle rit même quand c'est pas drôle. C'est pas ça, l'esprit d'équipe en entreprise. Et puis, je sais pas, même, j'aime bien perdre au jeu à chaque début d'émission, ça me plaît. J'aime bien que Céline essaye de m'aider à tricher dans la régie et que ça ne marche pas. J'aime bien hurler le journal de 13h dans le micro parce que j'ai fini par comprendre que vous le faisiez tous, donc il fallait peut-être le faire. C'est peut-être ça le team building. Et puis même tes blagues, Nagui, tu sais quoi, elles vont me manquer. Et puis les boutons partout devant nous sur la table, ben, je dois vous le dire, j'ai jamais osé les toucher. Voilà, je vois que même toi, Morgane, qui est arrivée cette année, tu le fais, tu fais ça pendant que les gens parlent, tu poses des questions en régie à la technique. Moi, le bouton technique, j'ai jamais osé appuyer dessus parce que je me dis que forcément, il va m'arriver un truc de merde avec mon karma de caca en ce moment et que forcément, les gens vont m'entendre dire « Mais putain, Céline, pourquoi ils ont invité Bruel ? Il est con, quoi. »
Ça va pas.
Et je vous jure, et ça va être en direct. Ah bah voilà. Ah bah, elle me parle. Ah bah, ça y est. Ah bah Céline me dit qu'il faut que je m'arrête et que c'est mieux que la saison s'arrête pour moi. Eh ben très bien, merci, je n'aurais jamais dû dire ça. Je voulais juste vous dire que j'en suis désolée, mais j'assume, j'ai jamais payé un seul café à la machine à café et j'ai fumé dans l'escalier. Bisous Laurence.
Merci. À l'outing.
Et encore, elle ne dit pas tout. Hein.
Ouais, non, heureusement.
Et t'as des garçons.
Elle a une famille. Isabelle Adjani, Rachida Brakni, Maïwen, Afzia Herzi, mais également Rachid Djaïdani, Faïza Ghen, ouais, Fethouma Bouamari, Manel Belghalfa, Serine Ferdi, Maïssa Belaroussi, Nabil Asli, Abel Jaffri, Janice Bouziani, tu en parlais tout à l'heure, Mabrouk Farouji, Aziz Boukrouni, Sophie Van Barthes, reine, tiens, que celle-là, elle. Nathalie Mann, Rimwan Belkacemi, Rabia Mokeden et...
Et Swad Massi.
Swad Massi. Évidemment.
C'est la plus grande de toutes.
Ça donne une...
Qu'est-ce qui se passe, Célina ?
Je commence par écrire. Pardon.
Oui, mais je veux que ce soit vous qui parlez dans ce micro.
Oui, oui, moi, ça y est, j'étais...
Vous êtes chez
je
vous.
Je prenais le large. <C'est ça. rire> Non, mais on parlait tout à l'heure d'écriture de scénario. J'écris sur Swad Massi. C'est elle qui m'inspire. Elle est exceptionnelle. Elle arrive à donner corps à l'histoire.
Enfin, excusez-moi, vous avez quand même écrit aussi sur...
Non, ça c'est moi.
Ah non, c'est
dans
alors là, je me suis dit,
non, c'est vrai.
Allô,
il y a beaucoup de Frédéric François chez vous. Oui. Autant chez Yamina. Autant chez Afia Herzi. On a du Frédéric
notre
François.
Notre ambiance.
Il y a aussi. Non, ça c'est extrêmement drôle, les scènes. La musique, justement, comment mettre en musique un film ? La bande originale du film, il était évident que c'était elle qui allait la chanter, parce que, comme vous disiez, vous l'écriviez, ce film, en l'écoutant.
En l'écoutant. Ensuite, dans tous mes films, documentaires et tout, il y a le moment « y dire ».
Ah oui.
Obligatoire. Donc « y dire » sera toujours présent, c'est pour moi... voilà, c'est une idée de l'Algérie douce,
la poésie.
Poésie, ouais. Folk, enfin, c'est beaucoup de choses pour moi en tout cas et beaucoup pour tout le monde. Je veux dire, c'est un grand chanteur. Ensuite, j'ai un compositeur, Amine Bouafa, et l'idée de la bande originale, je voulais que pour les petites filles, tout ce qui était mémoire, tout ce qui était. Je lui ai juste donné un instrument. Je lui ai dit, j'aimerais qu'il y ait du violoncelle et qu'on soit pas dans quelque chose. Je ne cherchais pas des sonorités arabisantes du tout. C'était quelque chose de plus cristallin.
Qui relevait de l'émotion.
De l'émotion et de la vibration
de l'instrument plus que du style.
Que le style, absolument. Mmh. Donc, il a fait un travail fantastique, je trouve.
Eh ben, la musique, justement, dans vos vies, c'est ce que nous allons avoir maintenant, c'est-à-dire la bande originale de Yamina comme d'Afsia. On va commencer par vous, Yamina, dans les années 80, fin des années 80, vous écoutez.
Je fais la danse.
Là aussi, on est dans la musique qui porte un message aussi.
On est dans l'engagement. Et là, totalement. C'est un des premiers engagements.
Le Zoulou Blanc, le surnommé ainsi, parce qu'il défendait évidemment le combat total, et la rencontre qu'il a eue un jour sur scène avec Nelson Mandela est évidemment extrêmement émouvant.
C'est important.
Et on est en 85, Yamina, et vous fondez avec Rachid Bouchareb une société de production nommée Raya Film, j'imagine un clin d'œil à Rachid Tahar, Raya.
Pas du tout, c'était Rachid Ra. Et Yamina, et ça a donné Yaraya.
Très bien.
Yaraya, et vous avez un tube.
Mais c'était nos deux.
fallait le déposer à la SACEM aussi.
Pourquoi cette association avec Rachid Bouchareb ? Pourquoi lui ?
Rachid a, on va dire qu'il a la version.
C'est un réalisateur, un metteur en scène.
On n'était pas encore réalisateurs tous les deux. On a commencé à faire des courts-métrages. Et puis finalement, personne ne voulait de nos projets, du tout, personne. Il avait déjà en tête son film avec Jamel Debbouze.
Indigène.
Moi, j'avais déjà Mémoire d'immigré, j'avais déjà Femme d'Islam. Mais on s'est dit qu'en s'associant, ça irait beaucoup mieux. Alors c'était super, ça, on n'a rien trouvé de plus, mais on a fait quand même une petite chose. Notre premier tournage... C'est la phase B d'un disque que personne ne voulait.
Okay.
Et par amitié.
Mais on a hâte de connaître
parce que
chute.
J'adorais le chanteur et nous avons réalisé tous les deux ce clip. Bah, et nous avons pris les droits du clip. Nous sommes seuls à avoir, parce que personne ne nous a donné un centime. C'était Belle Île en mer, Marie Galante. De Laurent Voulzy.
Incroyable.
Et à partir...
Incroyable.
Et à partir de ce moment-là...
Qui était une phase B, en plus.
Qui est une phase B.
Ouais.
C'est grâce au clip qui fait remonter la chanson qui devient la plus belle chanson. Voilà.
Ah, clairement, oui, clairement. Ben, jolie histoire.
C'est pas mal, notre première la musique. Production.
Ah, ouais, jolie. Avia Herzi, vous, vous écoutiez dans votre enfance.
Elle imagine. Oh. Elle imagine. La chaleur immobile des mille blanches. Elle imagine.
Et il y a cette scène où, dans votre film, justement, une dame chante a cappella comme ça pour faire plaisir à ses amis. Elle chante, elle imagine, avec une telle émotion qu'on en a les larmes qui viennent aux yeux. Moi, j'avais les larmes quand je réécoutais les Nakash, je me disais, mais non, pas encore, elle imagine. Mais ce n'était pas les mêmes genres de larmes là. Elles sont particulières parce qu'elles évoquent justement tout ce à quoi on croit ne pas avoir droit.
Bien sûr. Et ça parle de... Enfin, je ne veux pas raconter le film, mais chanté par cette dame, ça en dit beaucoup de l'exil aussi.
On est en 87. Mmh. Ça va dire... Ouais, moi, ça va être dur, là, parce que c'est votre année de naissance.
On est en 87 et vous avez été élevé par votre maman, seule, avec votre maman, après avoir perdu votre papa, que vous avez à peine connu. D'ailleurs, quand... On n'a que 2 ans et qu'on n'a plus son papa. On grandit dans le souvenir, dans le partage, dans ce que raconte sa maman. Comment on grandit avec un père qui, malheureusement, n'est plus là?
Bah, on essaye. Petit, on ne s'en rend pas trop compte. C'est plutôt en grandissant, on pose des questions, on essaye de... on fait avec. On essaye de grandir... On fait, on n'a pas le choix.
Et cette maman qui se bat pour deux, finalement, et qui se bat pour toute une famille, c'est cette bonne mère qui est au-delà du jeu de mots avec la cité de Marseille, avec ce monument, parce que c'est au-delà de la religion, la bonne mère, c'est le poids de, c'est tout un poids qui s'élève comme ça dans le ciel au-dessus de la ville. Ce n'est pas qu'un jeu de mots, parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire c'est cette présence de la maman qui va à la fois par moment subir les vies de chacun de ses enfants et à la fois chaque fois essayer de les garder dans le droit chemin, celui de l'honneur et du respect.
C'est ça, elle fait comme elle peut. Moi je me suis beaucoup inspirée de ma mère pour écrire le scénario. J'ai posé des questions parfois quand j'écrivais certaines séquences pour savoir comment elle réagirait. Et c'est vrai que petite, je me rendais pas compte. Moi, elle était femme de ménage, pas dans les avions comme le personnage. Ça, c'est pour le cinéma. Dans un collège, et elle travaillait chez des personnes âgées. Et elle me racontait souvent.
Des personnes âgées, donc, qui écoutaient Frédéric François.
Voilà. Non, c'est ma mère qui écoutait Frédéric François.
Dans le film, c'est la personne âgée qui. Écoute.
Dans le film, c'est la personne âgée. Voilà, mais dans la vie, c'est ma maman. Et d'ailleurs, elle s'est beaucoup disputée avec les voisins à cause de ça, parce qu'elle mettait trop fort.
D'accord.
Mais
et elle avait plusieurs métiers aussi, parce qu'on n'arrive pas à boucler, évidemment, et à nourrir autant de bouches à la maison quand on est seul à travailler.
C'est ça, quand
on est seul. Donc il faut être... Aujourd'hui, c'est très moderne. On appelle ça les slasheurs. Mm-hmm. Ceux qui ont un métier, slash, un autre métier, slash. Sauf que là, il n'y a rien de branché. On est femme de ménage, slash... assistante à domicile, slash aide à domicile. Enfin, on essaie de trouver tout ce qui est possible pour aider.
Et pour gagner sa vie honnêtement.
En rendant visite à un enfant qui est en prison, en essayant de gérer l'émancipation aussi des femmes et leur modernité qui ne correspond pas forcément aux valeurs avec lesquelles on a grandi.
Elle essaye de gérer ses enfants comme elle peut et de, comme je disais aussi, de survivre. Parce que si elle était toute seule, je pense que... elle se battrait pas autant, et c'est ce que j'avais envie de montrer. Moi, j'ai grandi avec une mère comme ça, et j'ai grandi dans les quartiers nord aussi. On a tourné le film. J'ai réussi à qui est devenue aujourd'hui la cité la plus dangereuse d'Europe.
Carrément.
Ah oui, on a pris de gros risques en tournant. Là encore, la semaine dernière, j'ai vu plein d'articles où il y a eu des meurtres où on a tourné. Mais je voulais vraiment, c'est un projet que j'ai depuis des années, je voulais rendre hommage à ces femmes-là. Mmh. C'est vrai que je me suis inspirée de ma mère, mais ça a été mon quotidien petite. Ces femmes courage, ces mères courage, là dans le film, bon, elle est d'origine maghrébine, mais elle pourrait être de n'importe quelle
Totalement
origine.
Totalement d'accord. Totalement d'accord. Oui, elle est seule et elle sacrifie sa vie pour ses enfants. C'est-à-dire que elle, entre guillemets, elle se dit moi, je n'ai aucune importance. C'est eux.
Bien sûr.
Mais il y a aussi ce côté, tout ce que l'on a entendu 25 000 fois, c'est-à-dire on n'est pas à l'hôtel ici, range ses affaires, c'est moi qui fais le ménage, et l'eau, et l'électricité, c'est moi qui vais la payer, et ainsi de suite. Enfin, toutes ces phrases que nos mamans, nos parents ont pu nous dire, on retrouve ça, mais quand en plus tout le poids sont sur les frêles épaules de cette dame.
Et puis c'est important de montrer aussi que quand on est seul à se débattre comme ça, quand on entend des discours dans la sphère publique de gens qui incriminent ces femmes parce qu'elles ne tiennent pas leur enfant, qui se lèvent à 5h du matin, prennent 15 bus pour aller bosser, qui rentrent hyper tard, que tous les gamins n'ont pas la même chance dans la vie, qui ne sont pas environnés de la même chose, de la même attention, du même temps, même s'il y a beaucoup d'amour dans ce foyer, et que c'est aussi une façon de dire que voilà, les gens se débrouillent comme ils peuvent. Et c'est ça aussi l'existence.
Et elle fait son possible. C'est pour ça que le film s'appelle Bonne Mère. Voilà, bon, son fils est en prison, il a fait ce qu'il a fait, mais c'est pas de sa faute, ça lui a échappé. Elle a fait comme elle a pu, seule.
Non, elle reste sa maman, quoi qu'il arrive.
Quoi qu'il arrive, elle sera toujours là.
Mais non, mais
jusqu'à son dernier souffle.
C'est la force de vos deux films, c'est-à-dire que d'un coup, on est convoqué parce qu'on est sœur, on est convoqué parce qu'on est frère, on est convoqué parce qu'on est papa, on est convoqué parce qu'on est maman, on est convoqué à une histoire contre laquelle on ne peut rien, qui coule dans nos veines, qui coule dans notre ADN, et qui sera toujours plus forte que tout, cette histoire. C'est ça qui est formidable.
Quoi qu'il arrive.
Ouais, quoi qu'il arrive. Et puis que on voit vos films, et je les ai regardés, je ne suis pas sœur, je ne suis pas maman, mais je suis bouleversé, touché par évidemment ces histoires-là, parce qu'on s'identifie aussi à ce qu'elles peuvent vivre. On même le comprendre en se disant je suis peut-être passé à côté de 2-3 trucs. Encore une fois, l'image de l'homme ne sort pas toujours grandi, mais c'est une leçon de vie donnée par vos films et vos cinémas respectifs. On va continuer évidemment à parler jusqu'à midi et demi. D'abord, voici Jérémy Crédville.
Ça vous est déjà arrivé de rêver que vous étiez en retard pour passer le brevet et vous vous réveillez, en fait vous avez 35 ans? ça m'a réveillé hier et ça m'a fait penser à moi ado. Comme on est le 1er juillet, je vais vous parler de vacances d'été, enfin des vacances que moi je vivais adolescent. Ambiance. Alors voilà, le voilà, l'été qui pointe le bout de son nez, les tétés qui pointent et ceux qui tirent ou qui pointent en état d'ébriété. Le voilà, le casse-tête du coffre plein, ce Tetris de valise et toi qui te plains, car tes lunettes de soleil sont rangées dans le sac que t'as mis en premier. Putain. Le voilà, ce trajet interminable, toi minot qui pète un câble, arrêt pipi, pique-nique ou panne. Les routes qui bouchonnent, ton père qui bougonne et klaxonne, les dépassements bien trop lents des 32 tonnes. Et toi à la vitre qui te fait des potes sur l'autre fil, à base de grands signes dans vos autos, pas du tout mobiles. Amitié éclair, sincère, éphémère, jusqu'au péage bien trop cher qui se profile. Et te voilà, sur une plage de sable fin, enfin fin, de sable et c'est déjà bien. Crème solaire qui te reste entre les doigts, lovée dans tes blanches phalanges de ta peau de suédois. Et devant toi un vieux qui fait la planche pour son éternel dimanche. Tiens voilà, ce vendeur de casquettes, lunettes, claquettes, peut-être même qu'il a de la ciboulette. Et cette famille qui est super organisée. Bateau, bouée, enfant sage, mot fléché, parasol XXL, bouteille, jeu de plage et autres merveilles. Toi t'as qu'une serviette et c'est celle de la veille. La voilà, la vague que tu n'as pas vu venir, celle qui te fait vaciller dans un éclat de rire. Petite tasse d'eau iodée, là où tu venais juste de pisser. Bataille de boules faite avec du sable mouillé, on se défie et on nage jusqu'à la première bouée. Le voilà, le premier coup de soleil, celui sur les orteils où tu t'étais juré pourtant d'avoir mis de la crème. Premier coup de foudre aussi pour cette fille bien trop jolie. Quoique sa copine est pas mal non plus, mais tu resteras là assis, à chercher mille et une façons de les aborder. Et c'est ce mec à la guitare qui viendra les emballer sous ton nez, qui est déjà en train de peler. De toute façon c'était soit lui, soit le joueur de beach volley qui est bien musclé et bien bronzé. Et voilà, le rituel de la madrée, la fameuse sortie au marché incontournable. T'y vas pour acheter des tomates et un poivron, tu reviens avec des bracelets, 3 saucissons et un jeu de 7 de table. Et ce camelot au micro qui te vend 10 parfums pour le prix de 2. Qui a besoin de 10 parfums, sérieux? Bah les voilà les odeurs de l'été. Ces parfums haussiens, biafine et viande grillée. Citronnelle, melon, monoï, pétrichor ou encore l'odeur des sorbets. Le voilà. Le chant des cigales pendant les longues siestes. Le ciel et ses étoiles durant les nuits sans veste. La chaste aux moustiques, les blagues de ton père en slip, genre alors. On n'attend pas Patrick. Je pourrais continuer comme ça jusqu'à la rentrée, mais voilà. Voilà l'été.
Wow. Et vous avez tous essayé de faire séquence émotion, sympa.
Mais tous un peu nostalgique.
Ouais, bah,
Et j'ai des dates à annoncer pour toi, Jérémy Crédville. Le 10 juillet, tu seras à Lille. Du 14 au 16 juillet à Marseille. Et du 26 juillet, et le 26 juillet au Bélier à Avignon. Donc t'es pas en vacances tout de suite.
Et ce soir, t'es en Belgique?
À Bruxelles.
Super. Oh, oh. Oui, je sais où. Nous avons Georges Parastatis qui est en ligne. Bonjour Georges, vous êtes avocat spécialiste en droit pénal international. On parlait tout à l'heure avec Yamina Benguigui, c'est le cœur de son film Sœur, qui est sorti hier d'ailleurs, et qui est actuellement au cinéma, du rapt parental. Ça existe toujours, ça concerne encore beaucoup d'enfants en France?
Oui, bien sûr, bonjour.
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 Oui, ça existe malheureusement. Nous avons plusieurs dossiers. Et la chancellerie m'avait indiqué actuellement avoir 318 cas d'enlèvements internationaux d'enfants traités. C'est-à-dire qu'ils ont été enlevés de France pour partir à l'étranger, dans d'autres pays.
Et comment les résoudre? Parce que là, on se retrouve avec l'un des problèmes évoqués dans le film, c'est-à-dire ce ne sont pas les mêmes lois...
Je n'ai pas vu le film.
Non, mais je veux dire, ce ne sont pas les mêmes lois dans un pays et dans l'autre, et donc on est confronté à quoi? À des accords politico-diplomatico-juridiques? Comment s'en sortir?
Il y a des incompréhensions juridiques et communautaires. Et culturelle. Oui. Alors, il existe, il faut savoir, une convention internationale du 25 octobre 1980, qui est la convention de La Haye. Cette convention gère le retour des enfants, si on agit dans les temps, selon certaines formes, qui est signée par la plupart des pays dont les droits se ressemblent. Les systèmes de droits se ressemblent. Malheureusement, il n'est pas signé par tous les pays, et on se retrouve confronté à des tunnels juridiques et des non-retour d'enfants très souvent, notamment pour les pays islamiques.
Yamina, vous voulez dire...
Pour les pays islamiques, ça c'est un problème. Pour l'Algérie, c'est un véritable problème. Yamina, il faut savoir...
Non, mais attendez, pardon, Georges, je voulais juste entendre ce que Yamina voulait dire à propos des...
Non, je voulais... Bonjour, monsieur, je voulais juste aller abonder dans votre sens et de ce que dit le film, Sœur. C'est que... La convention de La Haye des années 80, vous dites si on s'y prend vraiment tout de suite pour le... Mais le problème, c'est que l'on fait disparaître, les enfants. Dès qu'ils arrivent en Algérie, ils sont...
On ne sait plus où ils sont.
On ne sait plus où ils sont.
Et retenez ce que je vous ai dit, l'Algérie n'est pas concernée, elle n'a pas signé cette convention. Il y a une convention avec la France qui est une convention bilatérale, mais les pays musulmans ne signent pas la convention de La Haye. Parce que rien que dans leur esprit d'abord, le rapt familial n'existe pas. Le rapt et l'enlèvement ne peut concerner un des deux parents. Même en violation d'une décision de justice, si un des deux parents prend l'enfant, ce n'est pas considéré comme un rapt. Il n'y a qu'un tiers qui commet un rapt, dans la culture musulmane.
Alors quels sont les moyens légaux pour lutter?
Nous déjà de ce malentendu. Ouais. Nous on parle de rapt. Et dans notre culture on a raison. Mais pour eux, quand un père... Une mère enlève son enfant pour l'amener dans un pays musulman, ils ne considèrent pas ça comme un rapt, puisque un des deux parents peut prendre l'enfant, d'après eux. Et après, ils vont gérer la situation. Donc, on ne peut pas demander le retour si un des deux de ce pays-là n'a pas signé la convention de l'aide. Oui, excusez-moi, je vous ai coupé.
Non, c'était intéressant et c'était très clair. Il y a encore quand même de l'espoir et des moyens légaux de résoudre ces dossiers, ces rapts.
Alors,
où est-ce que c'est perdu d'avance?
Résoudre, qu'est-ce que vous appelez résoudre? De faire revenir l'enfant en France, malheureusement, quand il est dans un pays musulman, très peu d'espoir. Et il faut le dire à la personne qui le recherche, et qui recherche l'enfant. Par contre, il y a de l'espoir qu'il reprenne contact avec l'enfant et qu'il le visite sur place.
D'accord.
Voilà, que son droit de visite soit respecté. Là, par exemple, l'Algérie, une convention, si mes souvenirs sont bons, du 21 juin 1980, qui met en place un système d'exécution et de reconnaissance des droits de visite et d'hébergement.
D'accord.
Sur place.
Je rappelle que Georges Parastatis est avocat spécialiste en droit international, en droit pénal international, et je précise d'ailleurs que le film Sœur est en partenariat, c'est jour de fête qu'il le produit, en partenariat avec l'association La Mouette, qui est engagée pour la protection de l'enfance et qui a un site la-mouette.fr pour ceux qui veulent soutenir cette association. Merci maître d'avoir trouvé le temps de nous parler quelques minutes aujourd'hui à l'antenne. Bonne journée.
Je vous en prie.
Tanguy Pastureau, bonjour, tu vas parler de quoi aujourd'hui?
Eh bien d'une statue hommage à Johnny Hallyday qui est prévue à Paris et qui fait polémique.
À Bercy, ouais, c'est ça?
Oui.
Bonjour, Agnès Hurstel. à Bergen, donc tout le monde, David, Tanguy Passereau, Jérémy Crédville, Daniel Morin et nos invités Abdel Herzi et Yamina Bakigui. Nous parlons de Sœurs, ce film qui est sorti au cinéma hier, avec Isabelle Adjani, Rachida Brakni et Mei Wen dans les rôles principaux, de ces trois femmes qui, j'allais dire, se souviennent d'un coup qu'elles sont sœurs. Non, mais qui sont, j'aime bien l'idée de la convocation, parce que, ouais, si ça vous va, en tout cas,
oui,
si ça vous parle.
C'est ça.
Qui se retrouve donc avec cette idée et c'est Fatouma Bouamari hein, qui
Fatouma Bouamari oui qui est une grande actrice algérienne
qui joue Leïla maman
oui oui oui, oui.
Puisque je précise Leïla maman parce que de temps en temps Afia Herzi joue également ce même personnage dans les flashbacks. Il était important d'ailleurs, et c'est peut-être la pièce de théâtre qui aide à ne pas être perdu entre sommes-nous aujourd'hui, sommes-nous dans le passé, qui interprète quel rôle. C'était votre aussi manière de nous prendre par la main dans ces flashbacks.
Oui, c'est-à-dire que d'abord c'était important que Afia qui joue le rôle dans la vie de la fille d'Isabelle Adjani,
de Zora.
Lorsqu'elle joue dans les flashbacks, elle est le visage de la mère, qu'il n'y ait pas de transformation.
Ouais.
Il n'y a aucune transformation, c'est toujours le même visage. Et c'était d'emmener comme ça, d'emmener le spectateur vers... il plonge en même temps.
Mais ce qui est crédible, on voit surtout dans nos familles, on peut voir des petits-enfants en disant « Mais qu'est-ce qu'il ressemble à son grand-père quand il était jeune ?» quoi. Oui, c'est ça.
Mais c'est vrai que la pièce de théâtre, la première image, quand elle dit aux petites filles, donc les trois actrices jeunes, très jeunes, elle leur dit « Vous êtes elles à partir de maintenant. » Et c'est à partir de ce mot « Vous êtes elles » que l'histoire va démarrer, où on va plonger. Mais les flashbacks étaient importants. La pièce de théâtre, c'est aussi une forme de flashback statique, puisque ça raconte une période. Et puis, toute la réalité qui va à la fois... va entraîner les trois sœurs... Et la fille d'Isabelle Adjani dans une temporalité où tout le monde est un peu perdu.
Il y a un côté road movie aussi, c'est-à-dire de partir en Algérie à la recherche du fils ou du frère en l'occurrence qu'elles n'ont pas vu depuis tant d'années, donc à la recherche du père en disant il est toujours avec notre frère, il faut qu'on le retrouve. Voilà, c'est ça. Avec aussi des soucis de santé, d'actualité, de manifestation. Aussi et de combat. Le casting est venu comme une évidence. On connaît votre amitié avec Isabelle Adjani, mais Rachida Brakni, Mei Wen, ça a été simple d'abord que les emplois du temps des trois. Bah, avec
c'était ce qui était un peu plus compliqué, c'était l'emploi du temps.
C'est ça.
Mais nous avons déjeuné ensemble, toutes les quatre, et je dis, vous venez avec moi, on fonce. C'était quelque chose de... il fallait pas trop s'attarder sur les dates, comment faire. C'était à l'arrache. De toute façon, moi, je travaille comme ça. À partir du moment où elles étaient d'accord, où Afia était d'accord, on est parti comme dans une troupe. J'étais la chef de cette troupe. Avec si c'est bien, bon ben c'est bien, mais si c'est pas bien, ce sera moi la responsable. Ce qu'il y avait de complexe, c'était d'aller tourner en Algérie, d'amener toute cette troupe, de tourner. Nous avons travaillé avec une fantastique équipe algérienne. On oublie souvent que les équipes de techniciens, il y a une grande culture du cinéma. Mais l'Algérie est un pays qui a fait beaucoup de films.
La manifestation est montée de toutes pièces pour le film ou vous êtes greffé sur une véritable manifestation ?
Non, il y a une partie très serrée qui fait partie de notre tournage. Et ensuite, nous avons tourné. Ce sont nos images,
d'accord,
des vrais manifs.
D'accord. Le plan large, c'est la vraie manif,
les plans plus serrés. Mais c'était quand elles arrivent, elles arrivent avec l'Algérie du père et elles arrivent avec l'Algérie du passé et elles vont rencontrer violemment l'Algérie du présent et du futur.
Oui, avec, et c'est avec, la place avec, de... avec ce regard finalement de, que beaucoup de, d'immigrés peuvent ressentir, c'est-à-dire qu'ils sont ou elles sont vues comme étant des étrangères quand elles sont en France, là-bas, parce qu'elles sont algériennes d'origine, et puis quand elles vont en Algérie, ben, elles sont vues comme des étrangères aussi, parce qu'elles ont quitté le pays et qu'elles sont devenues
des C'est ce que dit le personnage de Faïza Gane, c'est-à-dire vous cherchez l'amour là-bas, vous cherchez ici, par dépit, mais vous l'avez finalement nulle part.
Ça s'appelle Sœur, c'est déjà au cinéma, je n'ai pas donné la date de sortie. De Bonne Mère aussi, qui est
21 juillet.
21 juillet, oui. Qu'il faut absolument voir.
Et qui est à Cannes.
Qui est
à Cannes.
Ouais. Et là, vous allez monter les marches
Oui. Il passe le 10 juillet, le film à 14h, et on va monter les marches la veille, je pense.
Avec quel frisson, quel papillon dans le ventre
Un peu stressé, j'avoue.
Parce que c'est plus qu'un film, quoi. C'est votre vie, votre maman.
Oui, c'est inspiré, on va dire, de faits réels, mais non, surtout que c'est
énorme. Vous montrez les marches avec elle ?
Non, elle n'est pas dans le film, elle ne peut pas.
Non, elle est très présente.
Si mais elle est discrète, comme le personnage de Nora. Mais stressée mais heureuse. Enfin, c'est un projet que j'ai depuis 2007.
Oui, vous en avez beaucoup parlé, j'avoue que vous venez ici nous parler de vos projets, et quand un projet voit le jour, c'est comme la naissance d'un enfant.
Ouais. Complètement, c'est une délivrance, quoi. Donc, franchement, c'est la délivrance, ouais.
Dans Autre délivrance, voici Tanguy Pastureau.
Je sais pas vous, mais moi, Johnny Hallyday me manque. J'aime les rockers parce qu'ils font tout ce que jamais j'oserais faire. Porter du cuir, par exemple. Je peux pas. Ça colle, on transpire. Il faut savoir que les vaches elles-mêmes se frottent au tronc des arbres pour essayer de retirer le leur. Certaines tournent devant le magasin Cuir Center en criant « Allez-y les mecs, décepez-moi, elle vous tente pas cette croupe ». Autre chose que les rockers font, qui m'est impossible, saccager des chambres d'hôtel. Moi, une fois à l'Ibistyle de Dijon, j'ai fait tomber ma lampe de chevet. J'en étais déjà malade. Je suis sorti par la fenêtre tellement j'avais honte. Troisième étage, j'ai glissé. Une fois en bas, je ressemblais tellement à la lampe de chevet que j'avais cassée que le réceptionniste m'a ramassé. J'ai passé 2 ans sur la table de chevet de la 202. J'en ai vu des cochonneries. Un jour, il y a même un type qui à la télé a mis l'émission d'Éric Brunet. Moi, une journée à vivre comme Johnny, le soir on m'enterrait. Je tiens pas l'alcool. Une fois, j'ai juste croisé Jean Lassalle dans un couloir, j'ai fait 2 jours de coma éthylique. C'est ça le rock'n'roll. De l'agneau, des tatouages, des sécrétions et des t-shirts avec un aigle survolant une meute de loups et qui tient dans son bec le drapeau sudiste. Le rock, c'est sulfureux. D'ailleurs, ils meurent tous avant 30 ans. Hein. Ouais. Sauf les Stones. Mais on leur a changé tous les organes. Keith Richards, on lui a mis le foie du pape François parce qu'il s'en servait pas. Même ses dents datent de 2002. Hein, les anciennes avaient pourri quand il ouvrait la bouche pour demander qui a l'héros. C'est l'équivalent pour les gens normaux de demander qui a l'heure. Il y avait 9 morts dans la pièce. Les scientifiques disaient que son haleine était plus nocive que le gaz sarin. Bref, j'aime Johnny. Et quand j'étais content encore récemment, Laetitia, la personne qui vit son deuil comme nous, nos vacances en août, a annoncé qu'une statue en hommage à Jojo allait être édifiée à Paris, mais j'étais heureux. Alors tout a été calé. Ce sera le 14 septembre devant Bercy, la salle de concert. Anne Hidalgo a dit ok. Elle a déjà validé un gros cœur géant perché à 9 mètres de haut, porte de Clignancourt, et le bouquet de tulipes de Jeff Koons qui en fait d'après l'artiste sont des anus. Alors, donc en fait il s'agit d'un parcours artistique qui raconte les différentes étapes d'une relation. Hein, je pense que la prochaine œuvre, on verra un couple qui s'ennuie chacun sur son portable au resto. Et là pour l'œuvre hommage à Johnny, on reste dans le kitsch puisqu'ils vont mettre une Harley Davidson en haut d'un mât en forme de gratte. Johnny, moto, guitare, ça fait sens. À la mort de Florent Pagny, on construira une feuille d'imposition en acier de 16 mètres de long entourée de poils de barbiche en lin. Sauf que Bercy, problème, c'est dans le 12e arrondissement géré par Emmanuel Pierre-Marie, une mère écolo de 50 ans. Et autant la guitare, elle n'a rien contre, même si on la sent plus gangsta rap de la West Coast, autant la Harley, elle ne veut pas. Car, dit-elle au journal Le Monde, cette moto symbolise tout autre chose que la ville durable et apaisée que nous voulons créer. Parce que le trip de ces gens-là est de bannir toute forme de moteur et à terme de n'autoriser que les déplacements à dos de mule. Et encore, si elle est ni trop de bruit, la bête sera tuée et découpée par un producteur de saucissons bio équitable favorisant le retour à l'emploi de migrants en situation de handicap. Donc, moi, vous me connaissez, l'écologie, je suis pour, j'aime les bêtes, tant qu'elles sont très loin de moi. Ouais. Mais Paris, c'est une ville, ça ne sera jamais apaisé. Une ville, il y a du bruit, des fêtes, des klaxons. Nous, pour annoncer le journal de 13h, on hurle 13h. Hein, on ferait pas ça si le studio était dans un petit village du Var. Hein, Nagui, vous nous diriez chute, parce qu'à côté de la radio, il y a la partie de boule, là, c'est Bébert qui pointe, et on se tairait. Mais Paris, c'est le chaos. eau depuis toujours. Enfin, on vit dans des effluves d'urine, avec du mobilier urbain soit moisi, soit rouillé. Moi, j'ai perdu mes deux tendons d'Achille à la suite de collisions avec des graphistes à trottinette électrique qui remontaient le trottoir. Depuis, pour me déplacer, je rampe. Ma vie, c'est Koh-Lanta avec du bitume. Paris, jamais, ne sera ni durable, ni apaisé, ni gentil. Si vous voulez du vert, il y a les Landes. Vous avez des pins, des surfeurs désirables et les variants en avant-première. Ouais. Donc, partez, partez. Alors, bien sûr, Anne Hidalgo, qui est pour la statue, parce qu'elle adore tout ce qui est laid, elle, une éolienne dans la baie de Somme, je pense qu'elle danse autour en célébrant la vie, a désavoué la maire écolo. La droite parisienne aussi, parce qu'eux, ils veulent le retour au Paris de 79, hein, avec Montand et Michel Piccoli à 80 km/h sur les quais dans une Renault 4. Mais d'autres écolos disent que la Harley est le symbole de la pollution et de l'hyper-virilité. Donc, ils sont contre. Alors, moi, j'ai fait une fois de la moto. Je me suis pas senti viril. J'étais surtout terrifié, en fait. Hein. Mais c'est vrai qu'un gang de motards, bon, on n'a pas trop envie de leur écrire des poésies en écriture inclusive. Alors, après, la question est-ce que le bruit de moteur surpuissant des motos est assimilable au pénis? Bon, moi, je vois pas trop le rapport. À titre personnel, mon sexe est silencieux. Je connais pas celui des autres. Mais bon, jamais dans les toilettes au restaurant, je n'ai entendu vroom, 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 puis un bruit de braguette qu'on remonte et un monsieur sortir de la cabine en disant pardon, je sais que c'est gênant, mais j'ai un Kawasaki 750. Voilà. Pollution, oui, la moto pollue. Mais c'est pas parce qu'il y a une statue de moto que des milliers de motards vont se réunir autour. Prenez le KFC. Est-ce que devant, il y a des poulets?
Non.
Hein, bon, voilà. Et puis, si on veut représenter Johnny, quel autre choix a-t-on? Foutre Jade et Joy en haut du mât? Elles seront pas d'accord. Au prétexte qu'elles veulent vivre leur vie. Enfin, les jeunes sont tellement égoïstes. Non, il reste la moto et la guitare. Ça veut pas dire qu'on approuve. Ça veut dire que Johnny, c'était ça. Un des millions de boomers qui, sur 50 ans, ont pourri la planète Terre. Derrière, nos gosses vont se taper un siècle de permaculture pour rattraper le coup. Ça veut dire que Johnny, c'était ni le vélo, ni le djembé dans le Paris végétalisé. Donc la statue, elle va être moche, mais comme tout ce qui est vrai.
Merci, Tanguy Massiot. Au cinéma, déjà depuis hier, sort le nouveau film de Yamina Benguigui, le 21 juillet, Bonne Mère, le film de Dafia Aherzi, et d'autres événements culturels, Leïla Kadour-Boudadis.
Quel est le point commun d'après
vous? Je trouve qu'il y a beaucoup d'Arabes autour.
Oui, c'est vrai, pour une fois. Voilà. Quel est le point commun entre Venise et Budapest d'après vous? Et c'est assez
villes.
Triste.
C'est des villes.
Bien joué, mon cher.
Il y a des canaux.
Ils s'enfoncent.
Non, c'est pas, mais non, bien joué, quand non, je dis bien joué, c'est parce que la régie disait bien
trop les
prostitutions.
Il y a un lien, non, pas la prostitution.
Et elle s'enfonce.
Elle s'enfonce. Canons, non, mais en tout cas,
l'eau monte.
Les fondations, c'est, les égouts.
Allez, je vous l'accorde. C'est deux villes qui pourraient, à la demande de l'UNESCO, être placées sur la liste du patrimoine mondial en péril. Vous l'avez compris, Venise, c'est l'impact des activités touristiques de masse avec les gros paquebots qui menacent, absolument. Et puis à Budapest, les rives du Danube et le quartier du château de Buda qui sont menacés par des projets immobiliers, qui fait que ces deux endroits qu'on connaît plutôt bien ou qu'on a vu à de nombreuses reprises, pourrait être en péril. Juste pour vous demander à chacune d'entre vous, un lieu qui vous ressemble, un lieu qui vous fait du bien.
Ah, qui vous ressemble?
Ouais, d'accord. Qui vous fait du bien. Votre endroit à vous?
À moi, mon endroit, j'ai un petit endroit qui s'appelle le Pila, près d'Arcachon, qui est c'est tout petit, c'est apaisant,
c'est
de la dune. Oui. Et il y a des pins.
Qui elle aussi a des problèmes écologiques. Là,
exactement.
Ouais.
Il y a des pins, il y a du sable, c'est quasi caché comme ça, c'est calme. Et ça ressemble, alors là, je ne sais pas, quand j'allais chez ma grand-mère en Algérie, je voyais les mêmes pins. Donc j'ai une petite comme ça odeur, mais j'adore cet endroit, voilà.
Et vous, Avdia?
Marseille.
Mais où Marseille? Tout Marseille?
Franchement, ouais, tout. Tout, ouais.
Quoi, le panier, la pomme, le 8e, Borély?
On va dire en particulier, bon, la Bonne Mère. Vraiment, c'est un endroit qui m'apaise et où, il y a beaucoup. Tout le monde se rassemble, quoi. Peu importe les origines et les cultures.
Et les religions, puisque,
les
encore
religions,
une fois,
voilà, ouais.
y a un côté très catho, entre guillemets, dans l'église en elle-même, mais on peut être de n'importe quelle religion et y aller et trouver une forme de sérénité, en fait.
Complètement. Moi, à chaque fois que je vais à Marseille, j'y vais. Et,
même quand il y a le Mistral.
Non, quand il y a le Mistral, pas trop. Et il y a toutes les origines et c'est trop beau, quoi.
Voici Daniel Morin.
Alors les amis, je vous le dis, cash, Jean-Marie Le Pen n'est pas mort. Bon, il n'est pas hyper vaillant non plus.
Il n'est pas en forme.
Non, il n'est pas en forme. Mais hier, il a pris la parole et il a appelé sa fille à viriliser son parti. Mais non. Après, on l'a remis dans son placard. Bah, c'est pas sa semaine, hein, Marine. Dimanche, elle prend une tôle régionale. Hier après-midi, un sondage la donne à 40% au second tour face à Macron, 60%. Et hier, son père démonte sa présidence. Alors, quand t'as le pays qui vote plus pour toi, les sondages qui t'annoncent une tôle dans 10 mois, et ton père qui te met un petit coup de couteau dans le dos, tout ça en 4 jours, moi, perso, je pars à Ibiza, je me mets sérieusement aux drogues dures. Bon, changeons de sujet, un truc plus plaisant. Alors, je pense que vous y êtes pour quelque chose, mesdemoiselles. Après avoir vu votre film, j'ai eu comme des envies d'espace, des envies de liberté, des envies de souffler. Hein. Déjà que, comme beaucoup, ça m'avait titillé suite au confinement. Et puis, hasard de la vie. J'en ai parlé avec un ami, Tony Baccara, un ami que j'avais pas vu depuis plus de 25 ans, un gars qui s'était lancé dans la finance et dans l'immobilier de luxe un peu partout en France, mais surtout à Paris. Bref, un gars devenu hyper riche et un peu hyper con aussi. Alors quand je lui ai parlé de mon besoin d'espace, il m'a dit « Ouais, l'espace, il n'y a que ça de vrai pour tenir le coup. » Alors j'ai répondu « Mais grave, il faut de l'espace, merde, cet été je me fais les 2 mois au vert. » Bonne idée, mais l'été ça suffit pas, il te faut de l'espace là où tu vis, mec, du feel good en plein Paname. Ok, je veux bien, mais surtout qu'avec ma fiancée Morgane, on veut habiter ensemble. En plus, je crois qu'elle attend des jumeaux, elle marche bizarre, elle transpire tout le temps. Ouais. Tu vois, il faut que tu changes. Ouais, mais l'immobilier à Paris, c'est chaud quand même. Écoute, Daniel, on parle bien-être, on parle feng shui, on parle namasté, on parle survie, mon pote, on parle nouvelle vie avec ta meuf, Mégane. Morgane, oui, c'est bon, je suis pas de pain. En ce moment, c'est la course aux appartements avec terrasse géante, hôtel particulier avec jardin. C'est maintenant qu'il faut acheter. En septembre, ce sera de la folie, les prix vont devenir dingues. Là, en ce moment, j'ai des apparts de rêve qui partent à moins de 10 millions. Moins de 10 millions, Dan. T'as de la chance, j'en ai encore 2-3 en catalogue, mais attention, ça part méga vite. C'est maintenant qu'il faut bouger, Daniel. C'est maintenant, c'est now. Alors, ok, mais je vais avoir, comme qui dirait, un problème de... Ah, c'est quoi le mot déjà? Un problème de... D'argent! Voilà, j'ai trouvé. C'est pas un problème, l'argent, c'est pas un souci. En ce moment, les taux sont encore hyper bas. En septembre, ce sera la folie. Mais là, c'est encore le moment d'emprunter. Ah bon? Mais ouais. Là, pour un apport de 10 millions, si t'as un apport de 5, la banque te suit sans problème. Après, c'est 5 millions que tu rembourses sur 10 ans. Ça fait quoi? 500 000 par an? C'est pas non plus. Tu gagnes combien par ta chronique sur France Inter? 20 000, 30 000 euros? Oh, un peu moins. Ah, j'ai oublié, service public. Allez, fourchette basse, t'es à 10 000 par chronique. Enfin, avec 10 000 par chronique, tu te fais 200 000 par mois. On est sur 2 millions par an. Oui, il y a des sacrifices. Hein. Tu te sers la ceinture, tu gagnes juste un petit million et demi par an. Et bingo Pedro, en 10 ans pile poil, t'as remboursé. Ouais, t'as un appart de bâtard avec une terrasse de ouf. Hein. Tu l'as ton espace pour mieux vivre ta life. Pourquoi tu dis rien, Daniel? Les impôts? Tu penses aux impôts, là, tu penses aux impôts. Merde, Daniel, me dis pas que tu payes des impôts. T'as une structure offshore, rassure-moi. En fait, j'ai pas grand-chose offshore. What? J'ai même rien du tout. Pour le tarif des chroniques, et en plus, c'est un peu en dessous de ce que tu crois. Ah, ok, je vois. Ambiance tiers-monde, je prends l'apéro avec l'abbé Pierre. Ok, on reprend. Tu veux de l'espace? Tu veux te mettre en couple avec l'autre, là, Roxane Morgane. Oui, laisse-moi me concentrer. Espace, couple, tu veux respirer, ok. Tu gagnes combien?
1 euro.
Ok. Tu connais Châteauroux? En même temps, je connais pas Châteauroux, Morgane. Hein,
tu... C'est beau! C'est beau! Ah, oui.
Isabelle Adjani, Rachida Brakni, Maï Wen, Afia Herzi, toutes ces femmes réunies. C'est vrai que les femmes sont nombreuses dans votre film et pas uniquement devant la caméra, mais dans l'équipe aussi autour de vous. Ce côté, cette sororité, Yamina Benghigi, que vous avez voulu et que vous défendez, n'est pas que le combat de la femme. C'est aussi aux hommes de défendre les femmes et leur place.
Oui, c'est il faut pouvoir transgresser.
Je pense à la scène de l'acteur qui joue le rôle du père qui s'énerve et qui est méchant et qui fait peur aux petites filles aujourd'hui et qui s'excuse derrière, qui n'assume pas de jouer ce rôle-là. On se dit qu'il y a un gap de génération quand même et qu'il y a peut-être une génération qui frappait les enfants, qui hurlait, qui cassait des cuisines entières en menaçant de mort ses propres enfants, et que c'est plus vraiment, me tromper, et que c'est plus vraiment le ton de cette nouvelle génération, heureusement.
Non, mais là, en même temps, on va pas s'arrêter. Oui, on va pas s'arrêter à une culture, mais à une. C'est beaucoup plus général, puisqu'il y a encore un mois, on a vu cet homme. Parce que la mère demandait le divorce, il est allé, il l'a tué, il l'a brûlé. Donc on est, comme dit Simone de Beauvoir, nos acquis ne seront jamais des acquis. Bien C'est-à-dire qu'il faut pouvoir parler et dénoncer les violences conjugales. Maintenant, je pense qu'on est sur une autre génération, la génération des pères Et encore une fois, je dis, c'est une constellation, la guerre d'Algérie. Hein, ça a touché différentes familles, différents gens, le MNA, le FLN, les Français, les Harkis, les Pieds Noirs. Enfin, tout ça, c'est d'une souffrance énorme. Oh, les pères ont été très cassés, donc très violents. L'acteur qui joue dans le film le rôle du père veut tout le temps nous démontrer que lui, il n'est pas le père.
C'est ça, oui.
Même vis-à-vis des petites filles qui sont actrices. Donc, on espère que tout cela est en train de se pacifier pour cette histoire. Mais les violences conjugales au sens large...
Malheureusement, existent toujours,
malheureusement,
quelles que soient les origines.
Pendant l'année du Covid, on a vu que ça a pris des on s'est dit que ça n'existait plus.
Oui, non, c'est affolant. Ouais, ouais. C'est affolant. En ce moment, au cinéma, donc, Sœur de Yamina Benguigui, à partir du 21 juillet, ça sera Bonne Mère, et avant, présenté à Cannes, la sélection Un Certain Regard du Festival de Cannes, qui commence le 6 juillet jusqu'au 17 juillet. On en a parlé également avec Marion Cotillard pour l'ouverture du film de Annette de Léo Scarrax. Des excuses à présenter, Daniel.
Oui, désolé pour Avia Herzi, hein, qui ce matin est venue pour deux films, deux rôles, deux métiers, comédienne et réalisatrice. Quelle volonté, quelle conscience professionnelle. J'annonce demain pour la dernière, ce sera tout l'inverse. Bona Poulvord, Vincent Desagna, deux escrocs pour un film. Et désolé, enfin, bien sûr, pour Agnès Hurstel, Elie Abergel, notre journaliste qu'on surnomme ici, Barry Abergel, n'est pas disponible émotionnellement depuis l'émission d'avant-hier sur les fantasmes avec les frères Funkinos. Il est devenu fornifile. Il est en couple et très heureux avec un canapé angle droit, cuir pleine fleur, 5 places, clic-clac.
Merci mesdames et merci, merci pour le propos que vous portez et l'intelligence avec laquelle vous portez ces propos. Merci. Sœur au cinéma depuis hier et 21 juillet, Bonne Mère, portez-vous bien. Yamina Benguigui, portez-vous
merci
bien.
Merci.
À demain donc avec Benoît Poulvord et Vincent Desagna, et tout de suite les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Merci.